la Vierge Marie est-elle une idole? Dans Narcisse Engelmund, Hermann Hesse raconte l'histoire d'un sculpteur, d'un artiste, dont toute la vie a été marquée au départ par la séparation de sa mère, lorsqu'il a été placé comme élève au couvent de Marienborn. Il s'échappe de ce couvent dans l'atmosphère d'une adolescence tumultueuse. Il court d'aventure en aventure, et dont un grand nombre d'aventures féminines. Il apprend à la fois la sculpture et les passions de l'amour dans une démarche caractéristique des Bildungsroman, du roman d'apprentissage, où le héros peu à peu apprend à se découvrir, à se connaître en passant dans un labyrinthe qui le conduit d'épreuve en révélation. Et au soir de sa vie, recrue d'aventure, il retourne dans son monastère où il est revenu mourir et il réalise là son chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre est une statue de la Vierge Marie, une vie de passion et de tumulte pour arriver à façonner une sculpture de la Vierge Marie. Et il comprend ainsi que cette vie, cette quête, a toujours été au fond une quête de la déesse mère. Et que la statue qu'il fait, tout en étant une statue de la Vierge Marie, traduit son désir, sa quête de cette déesse mère, et de telle sorte que la beauté de son œuvre tient aussi de cette quête. Cette histoire que je suis obligé de résumer parce que je n'ai pas retrouvé mon exemplaire de Narcisse Engelmund. Je voulais vous lire un passage, je le remplace par un récit lamentable. Donc cette histoire mélange le psychologique, la rupture avec la mère, le besoin de la mère, retrouver la mère, le mythique, la déesse mère, la divinité de la terre, la divinité chthonienne. Et puis l'esthétique, la quête de la beauté à travers une vie d'artiste dont la sensibilité est sollicitée de toutes parts. Et enfin, la dévotion, parce que dans le même temps, c'est par fidélité au monastère de son enfance qu'il y revient et qu'au fond, il découvre avec son ami Narcisse, puisque le livre s'appelle Narcisse Engelmund, que dans cette quête, il y a aussi une quête spirituelle qui, au fond, ne s'est pas trahie en dépit de toutes les aventures plus ou moins scandaleuses qu'il a menées. Et donc voilà, le psychologique, le mythique, l'esthétique et le religieux convergent vers cette statue qu'on nous dit sublime de la déesse mère. Tout se passe comme si, bien de nos contemporains seraient prêts à souscrire à ce jugement, comme si la religion qui désigne Dieu comme père devait s'équilibrer d'une bonne mère. Tout se passe comme si une religion qui penche du côté du masculin devait nous donner une symétrie, un parèdre féminin pour équilibrer humainement la dévotion qui nous tourne vers le sacré. De telle sorte que même le céleste, notre Père qui est aux cieux, serait en quelque sorte équilibré par la déesse mère qui serait une évocation d'une sorte de Gaïa, de terre, de déesse terre, et de la même manière que à l'origine du monde pour la mythologie grecque il y aurait eu l'alliance, le viol d'ailleurs d'Ouranos le ciel et de Gaï la terre, la hiérogamie fondatrice. Eh bien, on aurait donc un Père céleste dont l'image devrait s'équilibrer de celle d'une déesse terre. Et c'est ainsi qu'un bon nombre d'interprètes, plus ou moins prudents, plutôt imprudents que prudents, n'hésitent pas à dire qu'au fond, la Vierge Marie n'est pas autre chose qu'une traduction du mythe chthonien, du mythe des puissances sorties de la terre, et que ce n'est pas pour rien que la Vierge serait apparue dans les anfractuosités d'une grotte à Lourdes. comme si, au fond, c'était de ces mouvements géologiques profonds que surgissait la figure de la Vierge Marie. Il est inutile d'insister sur le fait qu'un grand nombre de superstitions, d'ailleurs, viennent s'agglutiner autour des représentations de la Vierge Marie, que la piété populaire n'hésite pas devant les vierges barométriques, par exemple. Vierge barométrique qui change de couleur. Parce que je vois que le mot étonne un certain nombre de personnes dans l'auditoire. Donc, il faut sortir un peu, aller dans les magasins de souvenirs, et vous y trouverez donc des vierges barométriques qui changent de couleur en fonction des aléas de la météo. Si bien que le culte marial semble réunir les ferveurs les plus troubles et rejoindre les mythes païens les plus primitifs. Pourtant, cette déesse mère, si elle en était une, n'a vraiment rien d'une matrone au flanc fécond. Elle n'a pas des seins débordants de lait. Elle n'a pas des fesses rebondies comme les créatures que nos ancêtres imaginaient et façonnaient dans leur culte de la fécondité ou de la maternité. Ou de la féminité. Et cette déesse, d'ailleurs, est pour les croyants, c'est-à-dire pour ceux qui nous l'ont fait connaître, cette déesse est d'ailleurs une fille des hommes, une créature elle-même, qui renvoie toujours à son divin fils. Tel sera le sens de mon propos, d'essayer de comprendre avec vous que la Vierge Marie est le modèle de l'humanité, qu'elle nous manifeste ce qu'est l'humanité sauvée. Elle est la figure anticipée, parfaitement cristalline, de l'humanité sauvée. Et qu'elle est en quelque sorte de ce côté, de notre côté à nous. Si elle est la figure de proue de l'humanité, elle reste de ce côté de l'abîme qui nous sépare de Dieu. Je pense d'ailleurs que si la pédagogie, la prédication des dernières décennies a tendu un peu trop à humaniser le Christ et à en faire un homme parmi les hommes et un des nôtres et en quelque sorte à lui taper sur le ventre de manière fraternelle, c'est sans doute à cause d'un affadissement de l'image de la Vierge. Car si nous avons un modèle d'humanité, il est bien plus dans la Vierge que dans le Christ. Et si l'homme veut regarder quelle est sa destination ultime, c'est dans la figure de Marie qu'il peut la reconnaître. Créature tout entière de notre côté, toute humaine, fille d'homme, elle n'en renvoie pas moins toujours à son divin fils. Elle n'en renvoie pas moins toujours à quelqu'un d'autre. Et c'est en cela que, évidemment, il est difficile d'en faire une idole. Car si idole elle était, elle capterait en quelque sorte pour elle l'adoration. Elle capterait pour elle la liturgie et la dévotion. Tout ce que l'on dit de la Vierge Marie dans la perspective chrétienne n'est dit que par rapport au Christ. Il ne convient d'ailleurs pas de parler en quelque sorte de la Vierge Marie en elle-même, pour elle-même. Ce que l'on dit d'elle n'a de sens que par rapport au Christ, qu'elle indique, vers lequel elle nous invite à nous tourner, faisant signe donc vers ce qui la dépasse, ce qui l'a dépassé et ce qui nous dépasse tous. De telle sorte que la thèse que je vais soutenir, qui n'a vraiment rien de révolutionnaire, c'est que tout ce qui est dit de Marie est dit par rapport au Christ et par rapport au salut, et qu'elle est donc la nouvelle Ève, selon l'expression traditionnelle, que d'ailleurs on retrouve fréquemment dans la peinture, puisque ce n'est pas pour rien que les vierges à l'enfant sont souvent représentées avec la pomme que le Christ rend en quelque sorte à la nouvelle Ève. Et donc la pomme qui était passée d'Ève à Adam revient du Christ à Marie. Et puis parfois une pulsion décorative fait qu'elle a été remplacée par un raisin, par je ne sais pas quoi. Mais regardez-y donc le geste par lequel la faute d'Ève est en quelque sorte lavée. Et donc elle est un modèle pour les croyants et non pas un objet d'adoration. Ce que nous vénérons dans la Vierge, dit Louis Bouilhet. Alors je me suis beaucoup inspiré d'un livre tout à fait remarquable que je vous conseille, qui est « Le trône de la sagesse » de Louis Bouilhet. D'ailleurs, dire un livre remarquable de Louis Bouilhet, c'est dire un pléonasme. Et donc Louis Bouilhet disant « Ce que nous vénérons dans la Vierge, c'est la gloire que Dieu promet à toute créature. » Alors, je reprendrai tout bêtement, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est la religion par un nul, parce que, bon, je ne suis pas théologien, je suis un fidèle peu poussif, et donc j'essaye d'entrer dans la compréhension des mystères mariales, car on dit les mystères mariales, et non pas Mario. Et donc, je parcourrai de la manière la plus respectueuse possible la maternité virginale, la maternité divine, Marie, Mère de Dieu, l'Immaculée Conception et l'Assomption, qui sont les quatre grandes affirmations concernant la Vierge Marie que nous transmet sous des aspects divers la théologie chrétienne. Premièrement, donc, la maternité virginale. Tous les premiers textes de la tradition chrétienne sont unanimes pour affirmer clairement que Jésus est né d'une vierge. Cette affirmation n'a rien de tardif, elle est au contraire très précoce, elle a surgi très certainement dans les premières années, puisqu'elle est attestée par l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc, qui empruntent des sources différentes. Et donc, Matthieu et Luc, s'ils affirment tous deux que Jésus est né d'une vierge, font écho à une affirmation qui a précédé l'élaboration de leur propre évangile. Et donc, cette affirmation est clairement attestée dans les évangiles. Une telle affirmation, évidemment, n'a pu venir que de la Vierge Marie elle-même. Au moins, on est sûr que s'il y a quelqu'un qui l'a dit, s'il y a quelqu'un qui a cafeté, ça ne peut être que la Vierge Marie elle-même. Donc, ça nous met devant la transmission la plus originelle d'un secret assez étrange, d'ailleurs. Car cette affirmation n'entraîne aucun gain de crédibilité pour celui qui la soutient. Elle fait plutôt scandale. La virginité, pour les Juifs, n'a rigoureusement aucune signification particulière. On n'a pas de texte de tradition juive qui manifeste d'une manière ou d'une autre un prix particulier attaché à la virginité, qui, au contraire, deviendra un thème dans la prédication chrétienne. Les gens qui nous disent qu'il y aurait là une trace des mythologies grecques et des visites divines par lesquelles Zeus engrosse quelques créatures par ruse et par convoitise sont bien loin de ce qui nous est présenté dans cette affirmation de la conception virginale. D'abord parce que manifestement, quand Zeus séduit Léda, Danaé, que sais-je, il n'est pas question de virginité. Il est plutôt question justement d'une célébration de la sexualité dans son caractère puissant, même dans l'ironie de cette puissance divine par rapport à la fragilité humaine. Et puis, les textes que nous connaissons, celui de l'Annonciation, sont évidemment dépouillés de toute référence à une quelconque puissance sexuelle, à une quelconque investissement divin de la créature par une puissance qui se jouerait d'elle, au fond. Puisque les apparitions de Zeus en aigle, en puits d'or, en cygne, en que sais-je, c'est une manière justement d'ironiser la destinée humaine. Donc cette affirmation assez étrange, qui n'a pu venir que d'une personne, elle est transmise dès les premières heures, et ceci donc au prix d'un certain... une certaine incompréhension et d'un certain scandale qui, d'ailleurs, dure toujours. Alors, je dirais de cette maternité virginale, première, et en gros, j'essayerai de tenir ce plan pour les quatre affirmations, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle signifie du côté de l'humanité et ce qu'elle signifie pour le salut. Donc le plan sera assez simple. Si je tiens mes promesses, pour chacune des affirmations, je dirai ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle signifie pour notre humanité, ce qu'elle signifie dans l'économie du salut. Ce qu'elle n'est pas, bien que parfois il y ait eu des traditions qui aient semblé aller dans ce sens, c'est évidemment un refus de la sexualité qui passerait en elle-même pour chose impure. Et comme s'il fallait affirmer que la naissance du Christ était plus pure et que la Vierge Marie était plus pure parce qu'elle était vierge et que donc par là soit dépassée la fatalité du sexe qui conduit les pulsions à circuler sans cesse de la vie à la mort. Il faudrait sortir de cette fatalité du sexe qui fait que nous tournons sans cesse de la vie à la mort dans une roue charnelle infernale. Et donc, à ce moment-là, il y a une certaine conception de la virginité qui consisterait donc à se diviniser ou échapper à cette fatalité charnelle. Or, manifestement, cette affirmation de la virginité ne peut pas être celle d'un rejet du corps, puisque c'est même, au fond, sa portée, nous allons le voir, est même rigoureusement contraire. Puisqu'il s'agit d'attester la vérité de l'incarnation. Et donc, si on voulait vraiment laver la venue du Christ de tout soupçon charnel, il eût été plus simple de ne pas le faire naître. Or, la venue du Christ n'est pas une descente, n'est pas une matérialisation. Vous savez, comme les personnages dans les films font tout d'un coup se matérialisent. Il importe au salut que le Christ naisse. Et donc, bien loin qu'il s'agisse ici d'un rejet du corps et de ses misères, cette virginité est bien plus à comprendre comme l'assomption, c'est le cas de le dire déjà, de cette condition charnelle qui porte par la parfaite disponibilité à Dieu la signification même de l'amour humain, de tous les liens que nous avons. D'ailleurs, la virginité consacrée, le célibat des prêtres, le célibat des religieux dans la tradition chrétienne ne peuvent pas ou n'auraient jamais dû être compris d'une manière ou d'une autre comme le rejet de la sexualité, mais bien plutôt comme une façon d'en montrer la finalité ultime, qui est celle précisément du parfait don de soi, du don de soi absolu. D'où le deuxième point, que signifie cette virginité de Marie pour nous? Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous? Eh bien, précisément, elle nous apprend l'accomplissement de l'éros dans l'agapé, l'accomplissement de l'amour comme désir, que l'on appelle éros, qui n'est pas rejeté, qui est assumé, qui est accompli dans l'agapé, qui est l'amour comme don. Et donc la signification de la virginité de Marie, on dit qu'une tradition rapporte que la petite fille aurait consacré sa virginité au temple. C'est pour ça que les orthodoxes attachent une grande importance à la fête de la présentation de Marie au temple. D'ailleurs, cette fête de la présentation de Marie au temple, en Occident aussi, a quelquefois été célébrée avec faste. Et on y célèbre, ou on y célébrait, là, il y a des écoles de la présentation de Marie d'ailleurs, le fait que Marie se présentant au temple aurait consacré son corps à Dieu, et donc par un don de soi absolu et sans retour. Du point de vue humain, ce don de soi a une signification eschatologique. Il nous apprend quelque chose sur la destinée ultime de la créature, puisque c'est au fond l'image même des noces avec Dieu qui est poursuivie jusqu'au bout à travers cette célébration donc de la virginité. Dans la Bible, vous le savez, le lien à Dieu est souvent traduit par celui des noces. C'est comme ça d'ailleurs que souvent on commente le Cantique des Cantiques. Paul, d'ailleurs, continue à approfondir cette image des noces, puisqu'il compare justement le rapport du Christ à l'Église, à celui donc de l'homme et de la femme. Et donc le lien de l'homme à Dieu ne serait pas un lien de soumission ou que sais-je, mais un lien sponsal. Or, cette image des noces, par lequel la Bible essaye de dire quelque chose du lien de Dieu à son peuple, n'étant rien lié à la fécondité, aux récoltes, à une manifestation divine qui ferait que l'épouse est au fond pensée comme épouse, comme le lien justement d'Ouranos et de Gaï, qui serait un lien charnel qui féconde la terre et qui la fait se multiplier. Non, dans ce lien des noces, ce qui est d'assez beau, enfin de très beau dans la Bible, c'est que ce qui est célébré, c'est la beauté de l'épouse. C'est pas sa fécondité, c'est pas la prime à la multiplication des descendants. Et donc, c'est bien plus, justement, la traduction du lien le plus personnel et non pas la soumission aux fatalités, aux nécessités de la vie. Enfin, et c'est le point le plus important, qu'est-ce que cette virginité, cette naissance, cette maternité virginale signifie dans l'économie du salut? Pourquoi fallait-il que Jésus naquît? Et pourquoi fallait-il qu'il naquît d'une vierge? Premièrement, il faut qu'il naisse. Il faut qu'il naisse, c'est ce que disait Tertullien, il faut qu'il naisse parce qu'il faut qu'il meure. Et si le salut passe par la mort et la résurrection du Christ, si la mort du Christ est réelle, il faut que sa naissance soit réelle. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la tradition chrétienne a peu à peu approfondi la méditation sur Noël, alors même que le mystère chrétien fondamental, c'est celui de la Pâque. Mais pour qu'il meure, il fallait qu'il naisse. Qu'il naisse donc dans la plénitude d'une condition charnelle, ce qui écarte donc les hérésies. Alors il y a toujours des hérésies, de toute façon tout ce qu'on dit du Christ est nécessairement hérétique à un moment ou à un autre. Mais donc ce qui écarte les hérésies docétistes qui affirmaient que l'humanité du Christ n'était qu'apparente. Donc il importe qu'il naisse pour que on dit cette humanité n'est pas qu'apparente, ou les hérésies monophysistes qui affirment que dans le Christ, il n'y a justement qu'une nature divine. Il faut qu'il naisse, parce qu'il faut qu'il meure. Cependant, le Christ, il faut qu'il meure, parce qu'il faut qu'il ressuscite. Si bien que la manière dont le Christ assume la mort n'est pas une manière totale à nos yeux, ou plutôt c'est la seule manière totale, celle qui va jusqu'à la résurrection. Et donc le statut, pour ainsi dire, de la mort du Christ, de ce point de vue, n'est pas comparable avec celui de la nôtre de mort. Et de la même manière que la mort du Christ est une mort réelle, qui cependant ne se confond pas avec une destinée humaine ordinaire, et bien de la même manière, sa naissance est une naissance réelle, qui cependant ne se confond pas avec une destinée humaine ordinaire. Et c'est ainsi donc que l'on peut interpréter la portée pour la compréhension du salut de la maternité virginale. C'est-à-dire que on ne peut pas concevoir, enfin on peut le concevoir, mais un chrétien ne peut pas concevoir, aucun chrétien ne l'a jamais conçu, que Jésus soit le fils de Joseph et de Marie, et puis que ce fils de Joseph et de Marie ait été élu et bénéficié d'une grâce spéciale et été porté à une perfection, alors évidemment pas par ses efforts. Et donc, si Jésus était le fils de Joseph et de Marie, alors le salut n'est pas réel. Car tout ce qui, comme le dit là aussi Tertullien, ou Origène, peu importe, tout ce qui est assumé est sauvé. Et donc, si Jésus était un homme parmi d'autres qui aurait bénéficié d'un privilège extraordinaire ou aurait été porté à une espèce de divinisation du fait de ses qualités, nous ne serions pas sauvés. Nous ne sommes sauvés que dans la mesure où précisément c'est la condescendance divine, la grâce divine elle-même qui se donne dans la chair et non pas viendrait l'envelopper de manière extrinsèque. Si bien que la naissance de Jésus d'une vierge signifie rigoureusement que Jésus-Christ est une création nouvelle. Que toute chose devient nouvelle et qu'il n'est pas la continuation par là même du flux vital qui serait divinisé, qui serait porté à la perfection au terme d'une histoire, par exemple, ou au terme d'un processus. Mais que, tout en assumant cette continuité vitale, il rompt avec elle. Nous sommes vraiment devant un événement, c'est-à-dire non pas une créature ancienne élevée à la dignité divine, mais une recréation. Et la portée, l'essentiel de la portée de la maternité virginale, c'est bien de dire que cette naissance est un renouvellement de la création. C'est en ce sens que l'expression « nouvel Adam » peut se comprendre. Ou c'est un « new deal », en quelque sorte, qui se manifeste dans cette naissance d'une vierge. Je lis quelques lignes de Louis Bouilhet dans « Le trône de la sagesse ». Il suit de là que la naissance du Christ n'est pas un événement de plus dans la série des générations, simple produit du sang, de la volonté de la chair et de la volonté d'un homme. Le Christ n'est pas un projet parental. La naissance du Christ est un événement tout nouveau qui procède de Dieu seul. Car loin de prolonger et de poursuivre cette espèce de démembrement du premier Adam qu'est la génération naturelle, elle est le germe d'un remembrement de tous ses fils dans l'Adam ultime. D'où la nouveauté de cette nouvelle naissance. Cette nouveauté même exclut ce qu'il y avait de nouveauté dans chaque naissance selon la chair. Elle exclut la nouveauté mauvaise au sens répétitif d'une dispersion à chaque fois accrue de l'humanité à travers toutes ces générations. Elle ne fait pas de celui qui naît un étranger de plus dans une famille qui ne se propage qu'en s'éclatant, mais elle fait de lui le réintégrateur de tous dans l'unité. Voilà la portée théologique et salvifique de la maternité virginale telle qu'on peut la comprendre si on approche de ce mystère, qui de toute façon s'est manifestement imposé comme une évidence pour tous les témoins. Deuxième affirmation, l'Église, en 431, a affirmé, reprenant un certain nombre de traditions antérieures, que Marie était mère de Dieu. Non pas mère des hommes. On peut toujours dire mère des hommes, c'est sympathique. Mais l'affirmation théologique fondamentale, c'est mère de Dieu. La bonne mère, c'est peut-être la mère des hommes, celle que les hommes vont prier comme des enfants. Mais l'affirmation théologique, c'est que Marie est mère de Dieu. Vous le savez, donc, en 431, un concile se réunit à Éphèse pour contrecarrer les affirmations que l'on attribue à Nestorius qui aurait rejeté cette expression de Marie, mère de Dieu, disant, à juste titre, que Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de cause ne peut pas avoir de mère. On ne peut pas imaginer un commencement chronologique de l'existence de Dieu et que donc le sens du mot « mère de Dieu » ne peut pas être de donner le jour à Dieu, de faire apparaître Dieu du... Alors de quoi ? Ben, du néant, je ne sais pas bien d'où il serait sorti. Pourquoi cette affirmation si difficile ? C'est parce que ce qui est en jeu, tout ce qui est dit de la Vierge Marie est dit par rapport au Christ. C'est pas de la Vierge Marie qu'on parle, c'est du Christ. Il faut comprendre ça. Et donc, ce qui est en jeu, c'est d'affirmer la personne du Christ. Une seule personne. Et d'affirmer que, par exemple, il n'y a pas, cette personne n'est pas Alors c'est quelque chose qu'on pense souvent, spontanément. De toute façon, tout ce qu'on pense du Christ est faux. On pense souvent, il est moitié homme, moitié Dieu, tiens. Vanille fraise. Alors, moitié homme, moitié Dieu, avec une partie humaine, tiens, qui serait le corps, et puis une partie divine, tiens, qui serait l'âme. Alors on peut concéder que de Marie qu'elle est à l'origine du corps, tiens. Pourquoi pas, c'est son travail de créature. Et puis qu'il y aurait eu une irruption d'une divinité qui serait venue loger dans ce corps qui aurait été charnellement transmis. Alors on s'est beaucoup battu autour de ces questions. Du temps où on aimait la vérité, on se battait beaucoup. Et comme on s'est beaucoup battu autour de ces questions, on en est venu à dire, c'est bien embêtant, si Jésus est moitié homme, moitié Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Que la moitié, même pas, parce que nous ne sommes sauvés que dans le second wagon. Et donc il importe, pour que le salut soit réel, que l'humanité soit pleinement assumée, et il importe que l'humanité soit réel. Donc je ne peux pas imaginer que le Christ est une sorte d'esprit divin dans un corps humain ou toute autre version. De toute façon, vous pouvez toutes les essayer, elles sont toutes fausses. Car ce qui est en jeu, c'est d'affirmer qu'il y a bel et bien une seule personne, d'où l'importance de la naissance, qui n'est donc pas une descente, qui n'est pas une matérialisation. Par exemple, dans les images, vous voyez, dans les très beaux tableaux que l'art occidental nous a transmis, dans certaines scènes d'annonciation, entre autres chez des Flamands, je vois par exemple une annonciation par Grunewald, qui est allemand, un Christ qui descend le long d'un rail lumineux. Un petit bébé qui descend le long d'un rail lumineux et qui arrive dans le ventre de la Vierge Marie au moment de l'annonciation. Hérésie! Parce que ça signifierait que, précisément, la naissance n'est pas réelle et que c'est une espèce d'inhabitation par un corps étranger dans une mère porteuse, au fond. La Vierge Marie, l'enfant Jésus, n'est pas un projet parental, la Vierge Marie n'est pas une mère porteuse. Alors ça devient difficile à affirmer. Mais il importe, si le salut veut dire quelque chose, il importe d'affirmer que Jésus est une personne et que donc il est né. Et si Jésus est une personne, on doit affirmer en toute rigueur de terme que Marie est mère de Dieu. Sinon, on fait une bipartition de la personne de Jésus. Donc Marie n'est pas mère du corps du Christ, elle est mère de la personne du Christ. Premièrement, ça ne signifie pas, mais je ne m'attarderai pas là-dessus, donc ça ne signifie pas que Marie serait antérieure à Dieu, qu'elle aurait engendré la divinité, que sais-je. Mais qu'est-ce que cela signifie pour notre humanité? Eh bien, cela signifie aussi pour notre humanité que dans sa maternité, comme toute mère, mais plus radicalement que toute mère, Marie a eu à découvrir que son fils est un autre. Non seulement qu'il est un autre, mais qu'il est même le tout autre. Alors c'est ce qu'il y a toujours un peu regrettable dans les représentations de la Vierge Marie en une espèce de maman enveloppante et douce qui fait des câlins à son petit enfant. Moi j'aime bien toutes les représentations. Quand même, celle-ci est un peu regrettable. Quand on insiste trop sur le caractère fœtal, en quelque sorte, de l'affection de la Vierge pour son enfant, car pour ce que l'on voit de la relation de la mère à son enfant, c'est une rude dépossession. C'est la Vierge aux sept douleurs, jusqu'au pied de la croix. Car c'est au pied de la croix qu'elle comprend l'abîme qui le sépare de son fils, qui la sépare de son fils. Et l'incompréhensibilité de l'histoire dans laquelle elle est rentrée. Donc, plus radicalement que toute femme, plus radicalement que toute mère, mais en même temps, ça nous apprend quelque chose sur la maternité, que cette maternité ne peut pas, n'a jamais pu, évidemment, se vivre sous la forme d'une possession. C'est ce que nous rappelle la méditation sur la Vierge aux sept douleurs. Il existe d'ailleurs un très beau livre, alors je ne sais pas, les œuvres du cardinal Journet ont été rééditées, donc vous devez en avoir une édition moins vieillotte que la mienne. Le cardinal Journet a écrit une très belle méditation intitulée « Mater Dolorosa » sur la Vierge aux sept douleurs. Et il introduit cette méditation en disant « Toutes les duretés que le Père Céleste a eues pour son Fils, sur qui pourtant descendaient ses complaisances, celui-ci semble en quelque sorte les retourner contre sa mère chérie. Comment ne serions-nous pas frappés, en lisant l'Évangile, de découvrir que si Jésus rencontre sa mère, c'est toujours pour briser quelque chose en elle, pour navrer plus profondément la pauvre tendresse sensible, pourtant légitime entre toutes, dont était pétri le cœur de la plus aimante et de la plus sainte des mères. Il semble qu'elle n'ait reçu ce cœur de chair que pour le voir meurtri par l'enfant pour qui seul il battait. Il semble que Jésus la traite avec une dureté étonnante et inconcevable. » Et personne en effet ne pourrait être aussi dur naturellement pour une telle mère, car personne ne saurait être surnaturellement aussi doux dans le même instant. À chaque fois qu'il brisait en elle davantage la sainte tendresse de l'amour sensible, Jésus faisait brûler plus ardemment le saint élan de la charité spirituelle. En tout cas, quelles que soient les pages un peu trop faciles de Peggy, il est difficile d'imaginer la Vierge Marie comme une maman fière de son fils. Enfin, toutes les mamans sont fières de leur fils. Donc, on ne voit pas de fierté des parents qui, d'une manière ou d'une autre, se reconnaîtraient dans cet enfant qui, au contraire, est le tout autre. Et enfin, donc, qu'est-ce que cela signifie pour le salut? Je l'ai déjà dit. Donc, j'ai anticipé. Il est essentiel. L'affirmation Marie, Mère de Dieu, est essentielle pour l'affirmation de l'unité de la personne du Christ, sans laquelle c'est en vain qu'il serait dit sauveur. Troisième affirmation, Immaculée Conception, ou plutôt Conception de la Vierge Immaculée. Vous le savez, ceci a été proclamé comme un dogme en 1854, particulièrement célébré à Lyon, mais il est présent dans la dévotion de l'Église depuis le IVe siècle, on en a des attestations, non sans difficulté, car un grand nombre de théologiens et les plus éminents, comme saint Thomas d'Aquin ou saint Bernard, donc c'est pas peu, repoussaient cette affirmation de l'Immaculée Conception. S'ils la repoussaient, ça veut dire qu'elle était formulée, qu'elle était envisagée. Alors pourquoi la repoussaient-ils? Alors je vais essayer de reprendre mon malheureux petit plan. Premièrement, ce que ça n'est pas. Deuxièmement, ce que ça signifie du point de vue humain. Et troisièmement, ce que ça signifie du point de vue du salut. Alors premièrement, ce que ça ne signifie pas, c'est précisément que la conception de Marie par ses parents ait été miraculeuse. Et donc Marie, elle, est bien née d'un homme et d'une femme. Donc elle est entièrement du côté de notre histoire et de notre destinée charnelle. Cela ne signifie pas non plus qu'elle ait eu une sorte de privilège qui l'aurait mise à part de l'humanité par décision surplombante et n'ayant pas à rendre compte d'elle-même, et qu'en quelque sorte, elle n'ait pas besoin de salut. Alors je commence par le troisième point. Qu'est-ce que ça signifie pour le salut ? L'affirmation de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire... Alors, je rappelle ce que signifie l'Immaculée Conception. Ça signifie que la Vierge Marie n'est pas héritière du péché originel, c'est-à-dire de la transmission de l'altération de notre nature par le péché, qui fait que notre liberté se trouve, du fait du péché, altérée, mutilé, partiel. Et cela ne veut pas dire que... Alors c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin rechignait à l'idée de l'Immaculée Conception, car il ne voulait pas penser, et il avait bien raison, que la Vierge Marie n'aurait pas eu besoin du salut. Au contraire, ce que la méditation chrétienne nous invite à comprendre, c'est que Marie est la première bénéficiaire du salut. Elle est appelée dans la liturgie « étoile du matin ». Et les commentateurs insistent sur le fait, qui du point de vue astronomique n'est pas tout à fait juste, que l'étoile du matin est la première à porter le reflet du soleil. Donc, Marie est la première en qui se voient les reflets du salut, la première en qui le salut est à l'œuvre. Et que donc ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas à être sauvée, comme toute créature est là à être sauvée, mais qu'elle est, en quelque sorte, sauvée par anticipation. Alors, ça nous oblige à penser un point auquel les catholiques pensent peu, auquel ils pensent mal, c'est la prédestination. Car ça veut dire, Marie a été prédestinée au salut. C'est d'ailleurs l'affirmation de saint Paul, au début de l'Épître aux Éphésiens. Et il faut toujours rappeler, contrairement à ce qu'on pense quand on est informé superficiellement des débats entre chrétiens, que les catholiques, tout comme les protestants, affirment la réalité de la prédestination. Si toutefois cette prédestination n'est pas comprise comme un destin. Mais la prédestination, ça veut bien dire que l'histoire ne va pas au hasard. L'évolution du monde ne va pas au hasard. Dieu créateur n'a pas balancé le monde en se disant après « Oh, quelle boulette !» Il y a dans cette création le salut justement qui est à l'œuvre, le salut qui travaille cette création et qui renvoie chaque créature à sa destination. Donc, la créature n'est pas jetée au hasard, obligée d'inventer sa vie à l'aveuglette. Tout l'effort d'une vie de méditation, tout l'effort d'une vie de prière, tout l'effort d'une vie sacramentelle, d'une vie de foi, c'est justement peu à peu d'essayer de comprendre, pour autant qu'on peut le comprendre, cet appel. Alors, si vous ne voulez pas dire prédestination, dites appel. Mais ça veut dire qu'en tout cas, l'initiative de Dieu précède la liberté et la fonde. Sinon, c'est la liberté d'un aveugle dans la nuit. D'ailleurs, les aveugles, ma comparaison est complètement superfétatoire. Bon. Et donc, c'est en ce sens que c'est par une grâce de préparation que Marie est sauvée. Et c'est pourquoi j'ai insisté au début sur le fait que quand nous contemplons la Vierge Marie, nous contemplons l'humanité sauvée par grâce de prédestination. Je vous lis là encore quelques pages de Louis Bouilhet qui sont plus sûres que mes propos. Où Louis Bouilhet explique en quelque sorte que Marie est la dernière figure de l'Ancien Testament et la première du Nouveau Testament. Toute la sainteté de l'Ancien Testament n'est qu'une sainteté d'attente et de préparation. Elle est l'ébauche, la progressive édification de cette foi par laquelle la parole divine voulait être accueillie dans l'homme pour le sauver et le recréer, au lieu de le juger et de le détruire. Elle est toute faite de désir, du saint désir suscité par l'Esprit de Dieu pour faire échec au désir impie affolé à l'origine par l'esprit du mal. C'est le fameux parallèle de l'Annonciation et de la tentation au pied de l'arbre. Ce désir est déjà le fruit de la grâce, mais d'une grâce prévenante qui prépare à la grâce proprement dite. À l'instant où, dans la Vierge, la grâce prévenante devient la grâce tout court, où la parole qui s'était approchée du cœur de l'homme depuis les origines en a enfin trouvé l'accès, la foi qui n'était encore qu'une pieuse crédulité devient la foi proprement dite. L'accueil que Dieu lui-même a disposé au don de Dieu. L'Immaculée Conception, c'est cette grâce de ne plus mettre nul obstacle à l'irruption de la grâce. Je relis cette phrase qui me semble être une clé pour nous, pour moi. L'Immaculée Conception, c'est cette grâce de ne plus mettre nul obstacle à l'irruption de la grâce. C'est la disposition à s'y livrer sans réserve, à être ravi par elle, quand elle va venir dans celui qui est la grâce même. C'est le don d'être accordé enfin, non pas à un quelconque don de Dieu, mais à ce don où c'est Dieu lui-même qui est donné et qui se donne actuellement. J'inverse donc mon petit plan et je dis, qu'est-ce que cela nous apprend sur la condition humaine ? Cela nous apprend quelque chose qui auquel, pour ma part, je tiendrais beaucoup à faire comprendre, c'est qu'au fond, dire que la Vierge Marie est préservée des conséquences du péché originel, dire qu'elle est sauvée par anticipation, c'est dire, comme le suggère ici Louis Bouillet, qu'elle est souverainement libre. Souverainement libre. Moi, l'expérience que je fais de ma liberté, elle est un peu pesante. Elle est lacunaire. Elle est lestée. Et donc, j'ai bien l'impression que ma liberté manque considérablement et de spontanéité et de disponibilité, et que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, nos libertés sont si jalouses d'elles-mêmes. Mais l'Immaculée Conception, si l'on dit que la Vierge Marie est le modèle parfait de la créature, ça veut dire que l'on contemple en elle la liberté humaine la plus parfaite. Et que la liberté humaine la plus parfaite, elle est précisément non pas dans la souveraineté isolée d'un sujet qui affirmerait ses prérogatives, mais la liberté la plus grande, elle est dans l'accueil de Dieu. J'avoue n'avoir jamais compris et m'être toujours agacé quand des gens nous disent que Dieu respecte notre liberté. Enfin, quoi ? Comme s'il fallait qu'il se retire pour respecter notre liberté ? Comme si je disais à ma femme, tu pourrais pas t'écarter un peu, que je sois plus libre ? C'est vraiment, si Dieu est Dieu, je ne vois pas en quoi il faudrait qu'il se retire pour que je sois libre. Si Dieu est Dieu, je ne suis précisément libre que quand je suis habité de lui, ou quand il habite en moi. Et donc, ça n'est pas une liberté à penser comme séparation, ce qui est le cas le plus fréquent pour nous. C'est vrai, nous on dit, écarte-toi un peu, que je sois libre. Bon, nous sommes comme ça. Mais la liberté la plus grande, elle n'est pas pensée comme séparation, elle est pensée comme union, elle est pensée comme contemplation unitive à Dieu. Et c'est exactement de cette liberté souveraine que témoigne le oui de la Vierge Marie. On insiste souvent sur le oui de la Vierge Marie, à juste titre, puisque c'est par ce oui que le salut est venu au monde. En quelque sorte, il a bien fallu qu'une femme dise oui pour que le monde soit sauvé. Dieu a voulu que pour que le monde soit sauvé, et on passe par le oui d'une femme. Mais quand on dit de ce oui de Marie que vraiment on lui doit beaucoup et qu'il est sublime, et que c'est effectivement ce qu'une créature a pu faire de plus sublime, oui. Vous voulez contempler la perfection de la créature, contempler le oui de Marie. Alors, souvent, on dit, elle a fait le bon choix, en quelque sorte. Elle aurait pu dire non. Alors, c'est la confusion entre la liberté et la liberté de choix, ça. Oui, dans un certain sens, Marie aurait pu dire non, peut-être, je ne sais pas. Elle a fait le bon choix. Mais son oui n'est ni un choix ni un projet. Il est précisément la pleine adhésion à l'être même et à la vérité même. Que pour nous, la liberté se donne comme choix, c'est la forme de notre liberté. C'est la forme de la liberté de celui qui ignore. Mais si ma conscience est en quelque sorte pleinement unie à son objet, je suis simultanément souverainement libre et au-delà de tout choix. Et donc la liberté de choix n'est précisément qu'un des effets en cascade de la faute originelle qui fait que notre liberté est une liberté mutilée. De telle sorte que ce que nous donne à comprendre le mystère de l'Immaculée Conception, l'affirmation de l'Immaculée Conception, c'est que donc il y a en Marie, Et alors après, ça devient... Enfin, ça devient il y a en Marie une coïncidence parfaite de la grâce et de la liberté. Et c'est le seul exemple que nous ayons de la coïncidence parfaite de la grâce et de la liberté. Et c'est pourquoi il convient d'insister que Marie est pleinement humaine et qu'elle est de ce côté de notre histoire. Alors que quand on s'est mis à parler de la foi du Christ, des hésitations du Christ, des tentations du Christ et de tout le Bataclan, c'est qu'on a voulu mettre le Christ du côté de notre histoire. Mais par défaut de contemplation de celle qui est entièrement du côté de notre histoire et en laquelle se manifeste l'union de la grâce et de la liberté. Je lis encore quelques lignes de Louis Bouilhet. En Marie, les desseins divins s'accomplissent parce qu'il rencontre enfin le cœur capable de les comprendre assez pour s'y abandonner. En elle, en effet, ce qui apparaît, c'est un être dont la liberté s'est tout entière renoncée, tout entière livrée aux incitations de la parole. La parole peut donc se faire chair sans faire violence. Elle a rencontré celle en qui le péché est dépassé, une âme en qui tout commande Dieu même, soit oui et amen pour la grande promesse. Enfin, dernier mystère marial, dernier dogme marial, celui de l'Assomption, qui, vous le savez, là aussi, a été défini en 1950, mais correspond lui aussi à une dévotion très ancienne que nous partageons d'ailleurs dans toute l'Église avec les orthodoxes qui, eux, parlent de dormition. Dans l'Occident, on parle d'Assomption, mais c'est la même affirmation, c'est-à-dire que la Vierge Marie n'a pas connu la mort comme altération qui caractérise un aspect de la destinée humaine. Qu'est-ce que cela signifie ? Du point de vue humain, qu'est-ce que cela signifie pour notre anthropologie ? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de nos dernières rencontres. Si quelqu'un pouvait coïncider tout le temps, à tout moment, avec la grâce, si quelqu'un pouvait à tout moment être souverainement libre, à tout moment, il pourrait dire « tout est accompli » et à aucun moment, il n'aurait projet ni regret. En quelque sorte, celui-ci, qui serait dans la plénitude d'une liberté parfaite, ne meurt pas. Nous, nous mourons parce que nous connaissons toujours l'écart entre ce que nous avons fait et pas encore fait. Et nous mourrons tous en disant « encore une petite minute, monsieur le bourreau ». Et nous nous préparons tous à la mort en disant « encore une petite minute, monsieur le bourreau », et parce que nous vivons tout le temps sur cet écart qui est notre rapport au temps. Le temps, c'est l'écart entre soi et soi. Si un être est pleinement adéquat en tout moment, en chacun des points de son être à tout ce qu'il est, il ne connaît pas le temps sous la forme de cette rupture, de cet arrachement, de cette interruption. Il ne peut le connaître que sous la forme d'un accomplissement. Si quelqu'un pouvait mourir en disant « tout est accompli », il ne mourrait pas. Et précisément, sa mort serait... plénitude. Or, on entrevoit cela parfois dans certaines destinées humaines. Mais en tout cas, cela veut dire que pour nous, il y a un lien, comme l'affirment toutes les Écritures, de la mort et du péché. Non pas au sens où celui qui n'est pas pécheur connaîtrait une vie indéfinie, mais au sens où celui qui n'est pas pécheur ne connaîtrait pas la mort comme interruption, mais la connaîtrait que comme accomplissement. Voir Naples et mourir. Voilà, celui qui pourrait dire voir Naples et mourir. Du point de vue humain, l'Assomption de la Vierge Marie signifie aussi que quelque chose d'essentiel sur notre destinée humaine, c'est l'unité de ce que l'on appelle l'âme et le corps, que l'on appelle le charnel et le spirituel, ce que l'on appelle, prenez l'esprit et la matière, on ne va pas s'arrêter au distinguo ici, mais cela veut dire que le salut est exprimé comme résurrection de la chair. C'est bizarre, résurrection de la chair. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le salut n'est pas une délivrance. Si notre mort était une interruption, si notre mort était, comme elle l'est au fond très souvent, une ultime épreuve parmi tous les ennuis qu'on a eus, alors on dit de défunt, il est délivré. Et beaucoup voient le salut sous la forme d'une délivrance, d'où d'ailleurs la mode du bouddhisme. Il faudrait en quelque sorte faire tomber des choses de soi. Non, le salut pour les chrétiens n'est pas délivrance, il est assomption. Il ne s'agit pas de se débarrasser de quelque chose, mais de tout assumer. Et bienheureux celui qui pourrait tout assumer et tout emporter dans ses bagages, tout emporter avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les disciples reconnaissent le Christ ressuscité à ses plaies. Le Christ ressuscité n'est pas un Apollon. Il est justement celui en qui toute l'histoire est assumée. Ce n'est pas un Christ lavé de toutes les souillures de ce monde, mais au contraire celui en qui toute cette histoire prend sens et est assumée. Et donc l'assomption, l'affirmation de l'assomption de la Vierge Marie nous permet de comprendre, enfin d'entrevoir la vérité de cette affirmation de la résurrection de la chair, c'est-à-dire du salut comme assomption et non pas comme délivrance. En quelque sorte, l'assomption de la Vierge Marie, que signifie-t-elle par rapport au salut, quelle signifie-t-elle par rapport au Christ? C'est qu'au fond, la mort nous arrache à tout ce qui n'est pas le Christ. Et c'est ce que signifie justement le salut et la résurrection. De telle sorte que l'assomption est le gage et les prémices de notre association à la victoire du Christ. Là où il est, nous serons. La question était, la Vierge Marie est-elle une idole? La réponse me semble clair, je prends le temps de la présenter. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose qui ressemble au divin. Quand les hommes ont façonné des idoles, contrairement à ce que l'on raconte, ils n'ont pas donné à leurs idoles des formes d'hommes. Ils leur ont donné des formes de monstres. Les idoles n'ont pas forme humaine. C'est des dragons, ils ont des grosses dents, des grandes oreilles, ils ont des antennes, ils ont des trucs, enfin je ne sais quoi. Car au fond, l'idole ne nous ressemble pas, elle ressemble à Dieu. Elle ressemble à Dieu tel que nous l'imaginons. C'est-à-dire un être de puissance, de force, avec des attributs ou militaires, ou sexuels, ou météorologiques. Jupiter tenant. Et donc l'idole nous dit quelque chose de ce que nous imaginons de Dieu. Et nous ne parvenons pas à imaginer Dieu humain. Car au fond, le Dieu que nous imaginons n'est que la projection de nos terreurs et de nos désirs. Et nos idoles prennent la ressemblance de nos terreurs et de nos désirs. C'est manifestement pas le cas de la Vierge Marie et encore moins du Christ. Alors plutôt, j'ai insisté sur le fait que tout ce que l'on dit de Marie doit être compris par rapport au Christ. Alors c'est la raison pour laquelle j'avoue, peu importe mon avis, avoir un peu de réticence par rapport aux représentations de la Vierge Marie qui la présente seule. Normalement, me semble-t-il, une représentation de la Vierge Marie devrait toujours la représenter avec Jésus. Et c'est quand elle est représentée seule qu'effectivement pourrait se faire jour la possibilité d'une idolâtrie quelque peu humaine, trop humaine. C'est pourquoi la conclusion de mon petit propos sera « La Vierge Marie n'est pas une idole, mais une icône. » C'est-à-dire qu'elle renvoie à ce qu'elle ne contient pas. Elle nous met en présence de ce qui sature justement sa seule présence, et donc tout le sens de son geste est celui des noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est-à-dire de conduire donc au Christ. J'ai parlé assez souvent des représentations que nous donnons de la Vierge Marie. J'avoue beaucoup aimer celle de l'église de Birne. Aller au bord du lac de Constance, dans ce superbe village qui s'appelle Birne, il y a une très belle église baroque, comme savent faire les Allemands. Et dans cette église baroque, où ruissellent des créatures de toutes parts, il y a une Vierge Marie qui tient un miroir. Et si vous prenez la place du prédicateur, la chair, quand vous regardez dans le miroir que tient la Vierge Marie, vous voyez le Christ qui est au sommet du dôme. C'est la représentation la plus parfaite de la Vierge Marie, du point de vue théologique. Celle qui fait justement de la Vierge Marie, non pas une idole, mais une icône, un chemin pour aller vers le Christ, pour aller au salut, dont elle est étoile du matin, c'est-à-dire la première manifestation. Voilà, j'ai terminé ce développement, un peu long, mais il est vrai qu'on avait tellement de choses à explorer. Je me livre à vos questions.